Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Canu au 102.2 et maintenant c'est Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu, le 102.2, et maintenant on va débuter avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va lancer avec les traditionnelles annonces.
Bonsoir. Ouais,
petit problème avec le micro, mais ça va le faire. Quelques annonces pour démarrer l'émission comme d'habitude. On va vous parler, parce que du coup c'est un événement important, c'est les 40 ans de Radio Canu. Ça se passera tout au long de la semaine prochaine, et ça démarre le mardi 16 mai, de 20h à 21h sur les ondes de Radio Canu, avec un ancien animateur qui va te raconter toute l'histoire du 102.2. Voilà, l'émission avait été faite pour les 30 ans, donc il y a 10 ans, et voilà, donc l'ancien animateur du coup était interviewé par une camarade des radios libres. Ça se poursuivra le vendredi 19 mai à 20h avec la projection de Lorraine Cœur d'Acier, un documentaire sur 2 ans de radio libre en période de lutte sociale contre la fermeture des aciéries de Lorraine, le tout suivi d'une bouffe à l'atelier des Canulars. Et le samedi 20 mai, certaines animes seront sur la place Guichard de 11h à 19h, voilà, avec radio en direct. Et le soir, du coup, il y aura une grosse teuf en soutien à la Caisse de Solidarité. Le lieu est tenu secret, mais bon, vous envoyez un petit mail sur celui que vous trouverez sur l'annonce sur Rébellion et vous trouverez tout ça. J'enchaîne avec autre chose qui aura lieu la semaine prochaine, j'en parle déjà, on le réannoncera peut-être la semaine prochaine aussi. C'est une rencontre avec Emmanuel Mbolela, donc c'est un réfugié politique de la République démocratique du Congo. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Réfugié, une odyssée africaine. Ça se passera le 20 mai à 18h30 au centre associatif Boris Vian à Vénissieux, sur inscription. Donc voilà, et ce bouquin-là, vous pouvez notamment trouver à la Plume Noire lors de nos ouvertures pour la permanence, donc les mercredis 17-19h et les samedis de 15h à 19h. Il y a aussi Les Mutineries, qui est un festival des arts militants qui implique du coup 3 MJC de Lyon. Il y a 4 jours de spectacle, musique, théâtre, cinéma, etc. Je vous donne vite fait la prog. Donc mercredi 10 mai, ça se passe à la Maison pour tous des Rancy, avec du slam et musique électronique et de la chanson engagée. Le jeudi 11 mai à la FJC Jean Massé, apéro poésie, voilà, et du théâtre. Et le vendredi 12 mai à la MJC du Vieux Lyon, c'est la 7e nuit du cinéma militant, avec 4 passages de documentaires et de films, Food Cop, Des jours et des nuits, Les Sentinelles, Boulevard Voltaire. Et ça se finira le samedi 13 mai, place Guichard, voilà, avec un village des cultures engagées de 17h à 21h, une chorale de la place, Tripalium, c'est du théâtre burlesque, Cœur colérique, Putain d'usine, projection BD concert, et il y aura pour finir un concert de cumbia féministe. Et j'enchaîne aussi pour vous parler du dimanche 21 mai prochain avec les chants sans papier. Les chants sans papier, c'est la chorale de RESF qui organise une fête des régularisations passées et à venir. Ça se passera sur la place Sato et on en reparlera la semaine prochaine, puisque du coup on aura encore le temps de vous en parler. Et une annonce qui concerne du coup la Plume Noire, et ça se passera mercredi prochain, le 17 mai. Voilà, à partir de... Voilà, il y a une projection, en fait, dans la soirée documentaire Major, et la projection sera précédée d'une permanence un peu particulière, en tout cas thématique. Laisse un peu...
Très vite. En gros, Major, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, Major, c'est Major Gracie. C'est une femme trans noire aux États-Unis qui a participé entre autres à Stonewall, ce qui est assez classe, hein, et aussi à la révolte d'Attica. La révolte d'Attica, c'était l'une des premières, on va dire, grosses insurrections dans les prisons noires aux États-Unis. Voilà. Et en gros, le documentaire, ça va être, on va raconter une partie de sa vie, c'est-à-dire sur comment elle s'est radicalisée politiquement, qu'est-ce que c'est que d'être une femme trans, noire aux États-Unis, toutes les intersections entre la prison, les questions de genre, les questions de race, les questions de classe. Et on voit un peu aussi tout le parcours qu'il y a derrière son association aussi qui vient en aide à principalement des personnes trans en prison et très souvent de couleur, voilà, avec du support politique et économique. Et voilà à peu près pour la projection. Et on est vraiment content de projeter ça en tout cas.
Ouais, du coup, c'est un peu une exclusivité.
C'est ça.
Donc voilà, on enverra tout ça, bien sûr. Sur notre site, réseau social, on enverra tout ça par mail, on va afficher ça un peu de partout. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire passer l'info pour qu'il y ait du monde pour cette soirée. Et vous pouvez venir du coup dès l'après-midi entre 16h et 19h du coup pour la permanence qui sera un peu particulière ce coup-ci, voilà, sur la thématique de la lutte LGBT notamment.
Voilà, et c'est pour le 17 mai, je sais pas si tu as rappelé.
Non, je l'ai pas dit du coup.
Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Voilà, donc c'est pour cet événement qu'on essaie de faire ça. Voilà.
Donc voilà, donc on vous invite du coup la semaine prochaine à la Plume Noire. Du coup, Maestro, on enchaîne du coup un petit peu avec les élections, c'est ça? Il s'en fout.
Tout à fait. Non, mais non, je m'en fous pas. Bah attends, tout à l'heure, tu m'as dit que de toute façon, tu me snobrais à chaque question que je te poserais.
Complètement. Voilà, un petit retour du coup sur les élections qui sont enfin terminées. On va pouvoir un petit peu respirer. Enfin, pas tant que ça, parce que du coup, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc, il va falloir.
On va pouvoir parler un peu de lutte, quoi.
Il va falloir enchaîner, mais voilà, pouvoir juste parler de lutte pendant un mois. Enfin, on l'espère en tout cas. Je voulais vite revenir, comme je l'avais fait le mercredi d'après premier tour, un petit peu sur les chiffres qui avaient été donnés. Voilà sur ces élections, voilà, donc on va pas prendre les chiffres de ce pauvre fan de Marine Le Pen qui pensait que les chiffres avaient été truqués parce qu'on n'avait pas compté l'abstention et les votes blancs dans les scores et que du coup en fait Macron avait fait que 30 et Marine Le Pen 33. Enfin, on va pas revenir là-dessus parce que
on peut peut-être parler de quelqu'un aussi qui nous a dit que vu que Macron avait fait 66,06%, c'était un signe de
Satan a priori, voilà. Oui. Une personne qu'on invite encore sur les plateaux télé et qui est pas encore en HP, c'est
et très devant
bizarre.
Aussi le musée du Louvre, donc c'est un Illuminati,
voilà, exactement, donc il y a plein de trucs,
tout s'explique.
Pour revenir aux chiffres, ce que vous avez dit du coup il y a déjà 15 jours, c'est que voilà, le ministère de l'Intérieur ne prend du coup au départ que le nombre d'inscrits et d'inscrites sur les listes, mais du coup ça oublie déjà un bon petit paquet de monde, puisque 3 millions de personnes environ ne sont pas inscrits et inscrites sur les listes électorales. Donc ce qui porte le potentiel de personnes qui peuvent voter à 50 millions et des brouettes, donc des personnes qui ont plus de 18 ans. Donc si on ajoute un petit peu, si on fait un petit peu un pourcentage, l'abstention du coup, là ils disent abstention 12 millions, mais si on ajoute les 3 millions qui ne sont pas inscrits, ça passe déjà à 15 millions, ce qui fait presque 30%. Voilà quand même du score, donc 30%.
Comptant les
beaucoup.
Votes blancs et nuls aussi.
Et si on compte, j'y viens, ne vous inquiétez pas, j'y viens. Si on ajoute les votes blancs, 3 millions, les votes nuls, 1 million, ça donne en tout, donc voilà, 4 millions supplémentaires à compter. Si on regroupe tout ça, alors même si les gens ne votent pas non plus de la même façon, hein, nul, blanc, voilà, oui, ou l'abstention, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, si on les comptabilise ensemble, ça, on arrive à un total de 19 millions de voix, donc de pratiquement 38% en fait, voilà, de l'élection qui est pour les abstentionnistes et ceux qui ont voté blanc et nul. 19 millions de voix.
Moi, j'ai juste une question. Enfin, est-ce que les gens qui ont...
Je sais pas si je pourrais y répondre par contre.
Ok, mais ouais, est-ce que par exemple les gens qui...
Tu n'es pas tout seul.
Est-ce que les gens par exemple qui ont fait des attentats terroristes et qui ont été malheureusement déchus de leur nationalité, est-ce qu'ils sont inclus dans cette statistique ou pas? Parce que c'est hyper important.
Je ne sais pas, donc je ne répondrai pas à cette question. voilà, donc on arrive à peu près à 19 millions de voix pour les abstentionnistes, vote blanc et nul. Quand on regarde le score du coup de notre... président de la République. Voilà, lui, il a comptabilisé 20 millions et 700 000 et des brouettes voix. Donc voilà, il y a quand même.
Notre, c'est beaucoup dire. Hein.
Ouais, bah notre, en tout cas, parce qu'on habite là, malheureusement. Donc du coup, voilà, c'est ça qu'on se tape. Et Marine Le Pen, du coup, avec ses 10 millions de voix. Donc en pourcentage, ça donnerait Macron avec 41% et des brouettes. L'abstention, vote nul et blanc, 37,7%. Et donc Le Pen, 21,2%. Donc voilà, un petit clin d'œil aussi à ceux qui sont amusés. Ils sont quand même un peu fait chier quand ils ont voté. Ils sont quand même allés voter pour marquer des petits messages assez sympathiques dans leur enveloppe.
Il y a plutôt
notamment deux que j'avais retenus. Moi, il avait quand même écrit sur l'ordinateur, donc sur un bulletin, pas trop chiant le dépouillement, point d'interrogation. Moi, je vote pas, mais je prends juste de vos nouvelles. Et une autre, du coup, qui était carrément une réponse type d'une lettre d'embauche en disant voilà aux deux candidats qui n'étaient pas retenus pour le poste et parce que du coup, on les emmerdait bien. Voilà. Et donc, du coup, on disait, dommage, c'est pas pour vous ce poste.
Moi, j'ai préféré la carte Pokémon. Le coup de la
il y a aussi la carte Pokémon, il y a Jean-Claude Duss, etc. Enfin,
il y a aussi celui qui a voulu ressusciter Mélenchon.
Ouais, aussi,
ouais. Avec Yu-Gi-Oh!
Donc, voilà, je suppose qu'on avait plein.
Jean-Claude Duss, on comprend pas très bien, c'était plus de vote blanc.
Hein. C'est pour
ça.
Ah oui, d'accord. Oui, ça va, c'est peut-être qu'ils connaissent ça quand même. Du coup, on passe ensuite, on avait dit. Oui,
vous l'avez dit. Non, mais alors voilà, tout de suite. Hein,
bah,
mais
attends,
que sur moi.
Ben, vous avez le suivi.
On continuait le point présidentiel. Hein,
Vas-y, je t'en prie.
Qu'on ait fini, que vous n'ayez plus rien à dire.
Je sais pas, moi.
Non,
je...
on n'a même pas lancé une petite
cunette. Vous voulez lancer une petite vanne
à notre ex-premier ministre qui a voulu retourner sa veste.
Ah, peut-être t'as dit une autre ex aussi, toi. Moi, autant, j'ai dit une autre.
Ah oui. Alors, leur ex.
Voilà, tu choisis.
L'ex-premier ministre qui a voulu rejoindre, du coup, le mouvement. En marche, La République en marche maintenant. Hein.
C'est joli, non ?
Et du coup, qui pas quitté le PS, mais en disant je vais les rejoindre, et qui est bien embêté parce que En Marche ne veut pas de lui. Et du coup, maintenant, le PS a lancé une procédure
d'exclusion
pour le virer. Donc, il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, comme on pourrait dire.
Ouais, du coup, c'est assez drôle parce qu'il pense qu'il peut avoir la notoriété pour se permettre, en fait, avant de demander, de dire publiquement, en fait, voilà, je vais rejoindre ce mouvement-là pour être présenté. Mais voilà, en gros, ce serait bien qu'il se fasse liquider des deux, puis qu'il arrête totalement, voilà, qu'il se retire très très loin et qu'on arrête d'en parler. Quoi.
Après, je pense qu'il a peut-être compris aussi que le PS était mort. Enfin, contrairement à d'autres, hein, par exemple. Après, si on regarde Philoche, par exemple, lui, il a toujours pas compris. Quoi.
Il
faudrait l'aider.
Il s'accroche.
Faites quelque chose, quoi.
Il me semble aussi que Hamon veut lancer un nouveau parti pour
un nouveau mouvement au sein, voilà, donc ça va faire
le parti de la bière à 6%.
Ça va être magnifique. Ouhou. Donc voilà.
Et puis il faut dire que la République, qu'elle soit en marche ou pas, la République n'est pas la récompense.
Eh oui.
Merci. On va être obligé de clore là-dessus ce point-là, malheureusement. On pourra rien dire d'autre.
On ne peut plus parler. Bah, on avait à la base prévu une première pause musicale, mais moi je proposerais bien de lancer d'abord le premier point des luttes sociales.
Ah, tiens, on prend au dépourvu en plus.
Je pense que vu la remarque de notre camarade, il a mérité du coup de
lancer. Je me suis échauffé un peu les cordes vocales, je vais pouvoir en faire une. Alors, tu veux une page de.
Je veux aussi des points géographie et des blagues. Hein.
Si vous me laissiez parler.
Compte sur toi.
Je vais finir avec le mois d'avril, hein, parce que lutte en avril, lutte difficile. On va aller à Montbéliard, donc en cette fin de mois d'avril, donc malgré un soutien important d'associations, d'amis, de voisins, une première tentative aussi d'expulsion qui avait échoué, c'est une famille algérienne qui a été finalement expulsée. Ils étaient pourtant en France depuis 4 ans, 2 enfants scolarisés, enfin des démarches à gogo évidemment pour le droit d'asile, également des soutiens de quartier. Eh bien, rien de nouveau sous la voûte céleste du petit Jésus Macron. Saint-Claude, dans le Jura, c'est un hôpital qui est encore en danger, un de plus. Il y a eu du soutien là également, hein, une centaine de personnes pour une réunion publique d'information. Alors tous et toutes, évidemment, contre cette ARS du coin qui a décidé de fermer le 1er juillet 5 services, donc service maternité, pédiatrie, chirurgie et 2 autres, etc. quoi. Donc il y a une manif qui sera prévue le 13 mai, qui est prévue donc le 13 mai à Saint-Claude, donc pour cet hôpital en danger. Le Havre maintenant, cette fin de mois toujours, donc c'était le 22 chez Confo. Comme on dit, hein, le slogan « Chez Confo, il y a tout ce qu'il faut », même la grève. Dans plusieurs magasins, donc mécontentement pour des salaires donnés en kit, les grévistes exigent la transformation de contrats intérimaires en contrats à durée indéterminée. Alors Confo, c'est le groupe Stenhouse, hein, pour ceux qui aiment un peu la précision, depuis 2011. Il y a 9000 employés Conforama, qui est en fait, cette boutique est la numéro 2 du meuble européen. Et Stenhouse refile quand même 10 millions d'euros au foot professionnel par an. Donc ça fout les boules à tout le monde. Chez Tatine, maintenant... Oui, ouais, je t'en prie, vas-y.
Ça fout les boules à tout le monde, c'est ça que tu as dit?
Comment?
Non, je croyais avoir.
On a mal entendu, je pense.
J'ai pas fait de spécialement.
C'est moi du coup.
C'est toi qui a
fou les balles préjugées.
On est tellement
préjugés d'une vanne.
Une autre enseigne cette fois, donc, c'est le magasin, les magasins après Confo, donc les magasins Tati, hein, sont les fripes à bas prix du groupe Agora Distribution. Lui-même, ce groupe est filiale de Eram. Comme bien d'autres enseignes d'ailleurs. Donc le petit monde des affaires en somme, Tati a été mis en redressement judiciaire afin d'éviter la liquidation. Alors pour les salariés, c'est déjà liquidé. Le 4 mai, c'est la rue qui sera leur terrain de lutte pour tenter de préserver leurs emplois avec leur intersyndicale CGT, UNSA et la CGC. Et bien les cachotteries du patronat qui a fait sortir de son chapeau, parce qu'on en vend aussi chez Tati des chapeaux euros, donc une cessation de paiement. Alors imbattable aux yeux des autorités. Il y a quand même 1720 salariés, dont une bonne partie, 700, iront rejoindre donc le pôle emploi du coin donc de Paris, Barbès, ce quartier très populaire. Donc la cocheterie, ben, c'est une dette bien ficelée de près de 6 millions d'euros, sortie donc du fameux chapeau. Alors, revendication pour les grévistes, ben, c'est les dans un premier temps, c'est le maintien des emplois, bien entendu. Aussi des négociations avec ERAM pour parler des licenciements inévitables. Parler également du plan social qui devrait être, ils exigent qu'il soit à la hauteur des capacités financières de l'actionnaire. Donc, pris en charge par ERAM et versement des salaires d'avril par le même ERAM. Alors, Agora Distribution, encore une fois, pour ceux qui aiment les précisions, c'est le groupe ERAM qui a d'autres enseignes dans son portefeuille, telles que Gigastore, Fabio Lucci, etc. Donc, au total, plus de 1750 salariés, donc 1300 chez Tati. À mon avis, ben, les 450 autres devraient quand même étudier une prochaine mobilisation avant catastrophe. Donc, je dirais à suivre. À Montluçon, dans l'Allier, sont des sages-femmes qui sont en pétard parce que il n'y a pas que d'ailleurs les sages-femmes, il y a aussi des soignantes, des auxiliaires de puériculture et aussi des agents de service. Donc tous ces salariés sont au service du bloc obstétrical de l'hôpital. Alors qu'est-ce qui leur arrive, ben, c'est qu'il y a des réductions de 10 postes dans le service pour arriver à l'équivalent de 1315 temps plein pour septembre prochain. Ultimatum de la direction aux salariés, donc à l'intersyndicale, qui ont immédiatement réagi en mettant l'accent sur le travail de fait qui se dégradera pour les patients et patientes. Les astreintes de nuit également et les RTT aussi sont dans les discussions. Et ça a enclenché donc une grève de 24 heures.
Je me permets de te couper juste deux secondes pour faire un tout petit point sur le même sujet, justement, de ces conditions de travail qui se dégradent dans les hôpitaux. On peut souligner qu'à Bordeaux, encore là récemment, il y a eu deux suicides chez des internes. Donc directement liés, en fait, avec les conditions de travail qui se dégradent, avec les postes supprimés et les personnels qui n'en peuvent plus, en fait, de travailler dans ces conditions. Et ça fait déjà 5 internes suicidés dans les hôpitaux depuis le début de l'année.
Voilà. Pour finir donc cette première page de lutte, nous irons, ou je vous emmène à Saumur, hein, c'est dans le Maine-et-Loire, mais aussi à Vigné, à Longuet, à Beaufort-la-Vallée, à Vernantes, donc sont des localités autour de Saumur. Et ici, c'est la poste, donc des postiers et postières qui grèvent depuis la fin avril. Alors qui, quoi, comment? Eh ben, c'est un projet de réorganisation, hein, le fameux projet de réorganisation de la poste. Aucune consultation donc des préposés. Alors ça fait tâche à l'heure de Macron, hein, qui avait quand même proposé de la discussion dans ses plans. La grève a pris naissance le 3 mai. Selon la direction, la nouvelle organisation s'appuie sur des accords nationaux pour mettre fin à la souffrance au travail. Ça, je l'ai trouvé belle, celle-là. Alors, donc, je dirais, oh, les braves gens. Donc, sauf que la CGT et Sud, toujours compères, s'associent une fois de plus et dénoncent les inepties. Alors, suppression de tournées, effectifs, bien sûr, en baisse, conditions de travail mauvaises, hein, dues aux tournées, aux distributions anarchiques. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais faut pas y croire, hein. Faut pas y croire, c'est pas vrai, ça. Voilà, c'est pour cette première page de lutte.
Donc il y avait de belles startups syndicales, en tout cas.
On va enchaîner avec la première pause médicale. Je me permettrai de faire juste avant...
Une pause médicale, ouais. Tu vas en faire une de pause médicale,
allez-y,
toi.
Allez-y, foutez-vous de ma
gueule. Non, du tout.
Non, mais j'attends, foutez-vous de ma gueule.
T'avais pas une lutte à rajouter en plus?
Je la rajouterai plus tard, ça te regarde.
C'est vous qui voyez, parce que bon, tant pis.
Si, je peux la rajouter tout de suite. Avec
non, mais c'était prévu.
Mais voilà, maintenant tu m'as demandé, hein, faut pas se plaindre.
Il va oublier.
Avec un chauffeur de car qui s'est plaint de ne pas être auxiliaire de police, Jean-Antoine, militant du syndicat des transports de la CNTSO, à Carpostal Riviera, a refusé de participer à l'expulsion de migrants suite à la réquisition de son bus par la police. Il a reçu le prix coup de cœur de Libération, qui a diffusé dans son édition du 17 mars un portrait du camarade. Bon, je vais pas lire tout le portrait, mais c'est juste pour rappeler en fait que très très régulièrement, en fait tout le temps, on implique les chauffeurs, les chauffeuses de car en fait qui traversent la frontière, qu'elle soit italienne ou allemande ou espagnole vers la France. On arrête les bus sur le bord de l'autoroute et on contrôle au faciès toutes les personnes de couleur dans les bus qu'on fait descendre, on fouille leurs sacs, et c'est très régulièrement qu'on en laisse sur le bord de la route et qui se doivent du coup de descendre et de monter avec la police pour être amenés on ne sait où en fonction. Et donc on salue quand même le geste de ce chauffeur de car qui a refusé ça en fait et qui n'est pas d'accord pour faire le jeu de la police à tous les postes frontières et aussi sur l'autoroute.
Puis on espère qu'il aura de bon soutien aussi quand même, parce que
les sanctions peuvent tomber, on ne sait jamais.
Pour lui après quoi.
Bon, après,
c'est sûr que
exactement.
Ça va pas forcément être facile.
Bon, après je pense que vu que c'est déjà un camarade de la CNTSO, je pense qu'il connaît un petit peu la répression, donc je pense qu'il est plus à sa près.
Oui, oui, mais après voilà, on verra bien. Voilà. Et moi j'en rajoute une petite vite fait, mais du coup je vous la ferai pas toute non plus, mais il y a les enseignantes et les enseignants de Vaux-en-Velin qui sont réunis le 5 mai. Alors ça faisait suite à une lettre ouverte qui était rédigée par l'équipe enseignante de l'école Youri Gagarine. Et bah du coup en fait ils étaient totalement d'accord avec cette lettre, et donc du coup ils ont décidé de se rassembler en assemblée générale et d'en faire une lettre plus globale pour toutes les classes, pour tous les collèges notamment, avec du coup voilà des demandes bien spécifiques sur les spécificités du REP+, sur le retour des personnels non enseignants, sur la reconstruction des RASED. RASED, c'est les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté, qui est un réel accompagnement des élèves dans le champ du handicap, qui est un développement du secteur médico-social, des locaux, et des outils adaptés aux besoins, la remise en place des aides socio-éducatives sur le territoire et une dynamique de soutien aux équipes enseignantes. Voilà, parce que je pense que c'est bien le bordel un peu partout au niveau des écoles, et notamment à Vaux-en-Velin, ça fait depuis début de l'année, je crois, ils se mobilisent, que ce soit pour les familles qui n'ont pas de toit ou pour leurs conditions de travail. Donc voilà, on leur donne toute notre solidarité en espérant que ça puisse bouger un peu, même là, il va falloir attendre un petit peu pour obtenir des choses, malheureusement, le temps que tout ce schmilblick présidentiel se mette en place.
Ouais, et du coup, je me permettrai de rajouter juste un point. En revenant à notre discussion du début sur les présidentielles, j'avais oublié de le signifier, mais on a Juive et Juif révolutionnaire qui a fait paraître juste quelques lignes, en fait, pour souligner qu'en Bretagne, à Ploeren, la veille des commémorations du 8 mai, le FN a fait retirer une expo sur la Shoah et le Veldiv, donc la veille de la commémoration du 8 mai. On rappelle, le 7 mai, c'était donc les votes pour du deuxième tour de l'élection. Une exigence émanant du secrétaire départemental FN du Morbihan, M. Bertrand Iragne, au nom de la neutralité politique. L'intéressé, qui a menacé, en cas de refus, d'en appeler au préfet, justifie par le fait que des médias ont véhiculé l'idée que nous étions d'anciens nationalistes et de nouveaux nazis. On a donc demandé de retirer les panneaux car les électeurs pouvaient se poser des questions avant d'aller au bureau de vote situé dans le même bâtiment. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont émus et nous en ont alerté. Les électeurs auraient pu se poser des questions avant d'aller au bureau de vote, dit-il, assumant totalement donc le négationnisme de son parti. C'est beau, hein ?
Magnifique.
Comment tirer une balle dans le pied tout seul ?
Ouais, ouais, c'est fou.
Ah, mais au moins ils assument.
Voilà. Bon, bah du coup, on va enchaîner avec la première pause musicale et je me permets de faire une petite dédicace à notre camarade Irradié aujourd'hui. Hein, on espère qu'elle va bien avec la musique Fornum Blonde et la chanson s'appelle What's Up. C'est parti.
Feel high enough.
êtes de retour sur Radio Canaille au 102.2. Oui, oui, Radio Canaille avec Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
J'aime ce changement de nom.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Non, on y va, moi j'enchaîne, parce que si, je sais très bien que c'est à moi de reprendre. Donc moi,
je connais pas ce qu'on avait noté.
Je mais connais le fil de l'émission, mais j'y vais quand même. Non, mais c'était à moi, je vous assure.
Non, c'était pas à toi.
C'est pas grave. Bah, si, parce qu'il a fait salut avant.
Non, c'était pas à toi.
Ça, oh là là, il est pénible. Non, pour parler un petit peu, voilà, parce qu'on parle beaucoup, enfin, assez souvent dans l'émission d'extrême droite, de fascisme, etc. Mais voilà, pour vous dire un petit peu que, bah, du coup, des paroles lancées par les politiciens de tout genre, bah, il y a des actes. Et il y en a eu quelques-uns, là, récemment, notamment un dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, là, le soir du deuxième tour. Voilà, entre minuit et une heure, ça s'est passé du coup à Nantes, où deux jeunes se sont fait agresser, alors qu'ils passaient en vélo. Ils étaient 4 ou 5, donc c'est son témoignage, hein, ils étaient 4 ou 5, ils sont sortis d'un buisson et m'ont mis à terre. À ce moment-là, je pensais que donc son pote était en vélo bien plus loin, qu'il avait roulé plus vite que lui. Donc lui, il arrive à vélo, ils lui ont demandé s'il était un militant antifa, il leur a rien répondu, alors ils l'ont frappé à coups de barre de fer et de bouteille en verre. Une voiture s'est arrêtée pour les récupérer et ils sont partis. Non, pardon, une voiture s'est arrêtée pour, en voyant l'agression et ils sont partis en courant. Alors donc, du coup, il a appelé les flics, il était plein de sang, il a demandé du coup si son pote du coup s'en était sorti ou pas. Mais en fait, ils lui ont expliqué qu'il était beaucoup plus, un peu plus loin que lui, mais du coup, en sang, complètement en sang. Voilà, donc en fait, lui, l'autre copain, ils l'ont gazé de bombes lacrymogènes et après, ils l'ont frappé. Donc c'était tous des jeunes entre 17 et 20, ils étaient 4 ou 5 donc. Voilà, ils ont été pris en charge par les pompiers et voilà donc Erwan, donc c'est le prénom de son pote, voilà. Pour l'instant, bah il est toujours en réanimation, il va sûrement passer en assistance respiratoire. Il est dans le coma, il a une fracture au visage, une fracture à la nuque, les cervicales déplacées, des impacts au niveau du cerveau, et les médecins ne savent toujours pas s'il pourra parler ou marcher de nouveau normalement. Donc voilà, ça c'est vraiment là, du coup le passage aux actes. C'est pour ça aussi que voilà, de temps en temps, on est un petit peu pénible, un petit peu chiant sur la vigilance à avoir face à ces personnes-là. Voilà, font partie des groupuscules d'extrême droite. Voilà, c'est pas pour rien non plus, c'est que derrière eux, ils n'ont aucune limite. Et qui peut aller jusqu'à tuer, parce que malheureusement, la Erwan, on ne sait pas trop ce que ça va donner, s'il va pouvoir se réveiller un jour ou pas de cette agression.
Et c'est sûrement le but de Nantes, à mon avis.
Voilà, très certainement. Parce qu'il y a eu d'autres agressions, notamment sur Strasbourg, il me semble, sur Valence, où il y avait du coup des mobilisations contre les élections, contre Macron, etc. Et du coup, il y a eu certaines agressions aussi dans ces villes-là.
Ici, c'est pas histoire de faire de la provocation ou quoi, mais on peut aussi bien souligner à chaque fois le caractère lâche de ce genre d'agression. Hein. C'est genre toujours plusieurs militants qui tombent sur la tronche d'une personne au beau milieu de la nuit dans un endroit tranquille pour bien lui éclater la tête. Quoi.
Et puis c'est pour ses engagements politiques, quoi, comme d'hab.
Donc voilà. Et puis on parle aussi souvent, voilà, quand il y a des agressions, il y a certaines personnes qui s'en prennent un peu aux agressés, malheureusement, parce qu'ils ne portent pas plainte. Voilà, un exemple, hein, voilà encore d'une plainte sur une agression due à des fascistes. Donc ça se passait au tribunal correctionnel d'Angers. Du coup, qui a rendu une décision au sujet d'agression et de violence raciste perpétrée par des militants d'extrême droite proches ou faisant partie du groupe local de génération identitaire. Voilà, donc c'était une affaire qui a eu lieu le 22 octobre 2016 avec trois personnes qui avaient été interpellées, dont deux personnes majeures.
C'était où ?
C'était, je l'ai dit déjà, à Angers.
Pardon. Angers, désolé.
Faut m'écouter, hein, parce qu'autrement, ça va pas le faire.
Non, je pensais au pruneau.
Et donc, merci. Et suite, du coup, à ces agressions, donc, il y a eu passage au tribunal et les condamnations, alors écoutez bien, hein, pour François Aubert Gana et Marc-Henri Picard, qui ont été condamnés à 175 heures de travail d'intérêt général et 10 mois de prison avec sursis pour le premier et 8 mois de prison avec sursis pour le second, ainsi qu'à des sanctions pécuniaires. Donc voilà, donc là c'est le collectif hein, antifasciste Tourangeau hein, qui dit « Si nous n'avons jamais considéré la justice comme une alliée et nous n'avons jamais compté sur elle pour combattre l'extrême droite, cette décision nous semble scandaleuse au vu des actes perpétrés. » Voilà. Néanmoins, cette décision a le mérite de les réconforter dans cette vision de la lutte antifasciste. Celle-ci ne peut pas et ne pourra jamais se faire avec l'appui ou via les institutions étatiques. Donc voilà, ça c'était pour ce qui passait du côté d'Angers. Et vous avez sûrement parlé de ce qui s'est passé au niveau de Lille, dans le Nord, avec du coup c'était le guitariste d'un groupe de punk rock, les Ashtones, qui était mort du coup il y a un peu plus de 5 ans, donc la police avait conclu à une noyade, parce que du coup il est tombé dans la Deule, voilà, affaire donc classée sans suite. Et ben en réalité, on a eu des nouveautés récemment, voilà, le musicien de cour a été passé à tabac par un groupe de skinheads et donc laissé pour mort et balancé dans le fleuve ou la rivière, je sais pas ce que c'est là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, il y a eu le tribunal, il n'y a pas très longtemps, là, de tout ce groupe Picard, là, de néo-nazis, voilà, avec Serge Ayoub en guest star, entre guillemets. Et bah, du coup, il se trouve que certaines de ces personnes donc, là, qui étaient jugées, du coup, ont lâché d'autres trucs, et notamment sur cette agression-là. Parce que du coup, là, la semaine dernière, du coup, trois membres de l'extrême droite radicale ont été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, avec préméditation ou guet-apens et avec armes. Donc voilà, donc l'arrestation a eu lieu après le démantèlement de la bande de l'ultra-droite en Picardie qui a été jugée en mars dernier à Amiens pour une série d'agressions. Donc c'est forcément l'un d'eux qui a dû parler pendant le procès, pendant les gardes à vue. Par rapport aux personnes du coup qui ont été arrêtées, par rapport à ces trois fascistes, il y a des noms quand même connus. Voilà, dans le groupe Picard là, qui a été jugé en mars dernier, il y avait notamment un bonhomme qui s'appelait Mourin, qui était membre important de Troisième Voie, donc c'est ce groupuscule qui a été dissous suite au meurtre de Clément Méric. Mourin, du coup, qui était le bras droit de Serge Ayoub, à son arrivée dans le groupuscule là-bas, il a été parrainé, entre guillemets, par un Lillois qui s'appelle Johan Mutt. Johan Mutt, il fait partie des trois interpellés arrêtés pour le meurtre d'Hervé. Ce n'était pas tout, parce que Troisième Voie travaillait à l'époque en collaboration avec la Maison d'identité flamande, la VLAM Suisse, l'ancêtre de la Citadelle, donc c'est le nouveau local qui a ouvert à Lille, au sein du coup du Front Populaire Solidariste. Donc voilà, la Maison d'identité, parce que du coup là aussi il y a des liens qui sont intéressants à faire, comme le mouvement identitaire lillois a été fondé par le tristement célèbre Claude Hermant. Alors Claude Hermant, c'est un indique et un barbouze, donc qui a été formé au service action du Front National. Et ce Claude Hermant, il a été mis en cause récemment, du coup, pour vente d'armes, et notamment des ventes d'armes à Hamedi Coulibaly, du coup, qui avait perpétré l'attentat, notamment de l'hyper cachère à Paris.
C'est ça.
Donc voilà. Donc bien sûr, on trouve ces deux personnes, mais on trouve aussi quelqu'un qui est très actif en ce moment, donc c'est lui qui est le porte-parole de la Citadelle, c'est Aurélien Verhassel. Donc voilà, qui est aussi en lien du coup avec Antoine Denevy, qui est du coup un autre arrêté qui est aussi impliqué dans le trafic d'armes, pas Aurélien Verhassel mais Antoine Denevy, donc ce qui fait une bonne un bon boulot, voilà, au niveau des FAF. On espère que le problème, c'est que pour l'instant l'histoire s'arrête pas là, parce qu'a priori, donc là c'est les procès sûrement qui pourront le dire, en tout cas là c'est assuré dans l'article, c'est que ce fameux Claude Hermant était en fait un addict de la police, et il a dit avoir livré ses armes du coup sur demande des forces de sécurité. Donc ça, c'est tiré d'un article quand même, de Mediapart et de La Voix du Nord. Donc voilà, ce serait la police, la DCRI, la gendarmerie et la douane qui seraient impliquées dans ce trafic. Donc c'est quand même assez gros. Donc voilà, on va suivre ça de tout près. En tout cas, il y a un rassemblement ce vendredi 12 mai à 19h sur la place, sur la grande place de Lille, afin de rendre hommage à toutes les victimes du fascisme et rappeler aux Nervilleois que nous leur rendrons coup pour coup. Donc ça, c'est
pour toutes les victimes du fascisme. Ça inclut aussi toutes les victimes de gens qui utilisent les armes qui leur vendent.
Voilà, exactement. Et ce qu'il faut, en plus, rappeler sur cette affaire qui est vraiment très sordide, c'est que donc la rivière ou le fleuve, dans laquelle il a été jeté et qu'il a été tué, il y a eu quand même quatre autres personnes qui avaient retrouvé les années précédentes mortes aussi dans ce fleuve-là. Donc voilà, peut-être que du coup les enquêtes vont aussi être ouvertes à ce niveau-là.
Oui, il y a une possibilité d'avoir de liens justement là-dessus.
Et pour c'était chanteur du groupe de punk qui a été assassiné. C'était un groupe de punk qui était connu pour ses positions antifascistes.
Surtout. Et puis lui, c'était vraiment un militant connu du coin, infatigable. Et donc c'est pas pour rien qu'il a été pris pour cible.
C'est pas un groupe de punk au hasard, c'est vraiment un groupe de punk antifasciste qui a été pris.
Voilà, et pour rappeler comment fonctionnent quand même ces groupuscules-là, ils fonctionnent quand même beaucoup à l'agression et surtout pas au challenge, mais disons les petits jeunes pour faire leurs preuves, quand ils sont parrainés entre guillemets par quelqu'un, il faut qu'ils aillent tabasser des gens, aller le plus loin possible pour pouvoir faire ses preuves et rentrer dans le groupe, un peu comme un gang.
Mmh. Oui, mais c'est les mêmes stratégies.
Voilà.
Mais ça rappelle la tristement célèbre sur Paris quand ils avaient c'était le 1er mai, je crois, qui avait été là. C'était Ibrahim Ali, non ? Qui avait été lancé dans la scène.
Oui, du coup, on avait parlé la semaine, il y a 15 jours, du coup, là, du coup, le 1er mai, il y a toujours une commémoration sur les bords de Seine.
Je trouve que c'est pas un hasard aussi, je trouve, comme symbolique, en tout cas, derrière.
Et à côté de ça, on leur laisse toujours le droit de défiler, comme ce 8 mai, tranquillement à Paris, où il y avait à peu près 80-90 gudards qui ont pu défiler tranquillement, sans être inquiétés par qui que ce soit, pour commémorer la mort d'un des leurs. Il y a plus de 10 ans de ça, qui était une des espèces de crevures.
Comme quoi on aimerait bien qu'il tombe beaucoup plus des yeux.
Sébastien des yeux et des ailes, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Je sais pas du coup.
Je sais pas, débrouille-toi, tu as monopolisé mon fil de manière autoritaire.
Bien sûr, c'est cela.
Non, eh ben, on pourrait enchaîner aussi de manière surprenante sur les luttes sociales numéro 2.
C'est pas vrai. Allez. Ouais,
aujourd'hui, on balance à n'importe comment.
Bah, on est parti. J'ai déjà commencé. Allez, sur le mois de mai, hein, qui ouais. est court là, mais n'empêche qu'il y en a pas mal. Hein. Voilà, je les ai pas toutes, mais bon. Je vous emmène dans le Haut-Cailly. C'est joli comme tout. C'est dans le 76, en Seine-Maritime. C'est une grève des personnels, enfin du personnel du regroupement pédagogique intercommunal. C'était le 4 mai, donc je dis c'était, car le conflit a trouvé son issue, en somme. Mais à l'origine, ça a démarré sur une fermeture de classe touchant les communes du coin, donc comme Saint-André sur Cailly et Saint-Germain sous Cailly. Grève totale pendant cette courte période. En fait, si j'ai bien lu les infos, ces classes devaient être supprimées à Saint-Germain, donc sur Cailly, mais sera quand même supprimée, mais dans la commune de la rue de la commune. Elle s'appelle la rue Saint-Pierre. Voilà, ce qui est convenu en fait à tout le monde, même aux 12 employés du RPI, donc le regroupement pédagogique intercommunal, qui ont donc stoppé la grève, mais qui restent quand même tous et toutes vigilants et vigilantes. À Gap, dans les Hautes-Alpes, sont les services techniques territoriaux, enfin les agents territoriaux, personnels de la ville. C'était le 4 mai également, avec une occupation du parking par 80 personnes, avec la CGT, la FSU et la CFDT. Alors, dégradation, évidemment, encore une fois, on les retrouve ici, des conditions de travail. Un plan de lutte également qui a été concocté par la mairie contre l'absentéisme. Ils ont été rejoints dans cette lutte par la communauté d'agglomération, enfin les employés, hein, et du CCAS qui dénonce l'absence de dialogue social, encore une fois, avec les élus. 300 personnes en assemblée générale pour la continuité de cette lutte. Et puis un cortège qui s'est rendu jusqu'à l'hôtel de ville. Saint-Étienne, grève chez les bambins, dans les crèches, je veux dire, hein, et les cantines scolaires. Alors, plus rien à bouffer, évidemment, c'est à l'appel de la CGT, c'était les 5 et 9 mai, dans la ville, et sans exception, hein, toutes les crèches étaient donc en grève. Alors, qui, quoi, ils veulent des moyens humains, hein, voilà, s'il vous plaît, quand même, ils l'ont demandé, hein, poliment. Comme en février 2017, puis en mars 2017, comme en 2015, comme en 2016, donc je dirais que notre gros bébé Macron va mettre bon ordre à tout ça, on l'espère. Belfort, sont des travailleurs d'Alstom qui ont amené leur direction devant les tribunaux pour préjudice d'anxiété pour avoir travaillé dans une usine reconnue amiantée. Ils sont 18, mais ils sont quand même 1600 à attendre le verdict de la justice. Alors pour les 18 en question, les juges en première instance ont estimé qu'il y avait prescription. Donc la plainte avait été déposée un peu tard, avant 2013. Donc l'appel a été fait, hein, pour les 18. Ils exigeaient 20 000 euros pour le préjudice. Eh bien, le 5 mai dernier, la justice les a déboutés. La cour d'appel reprenant intégralement les arguments de la direction d'Alstom. Donc ils ont été remis dans leur 22, si j'ose dire. Et en plus, ils ont été condamnés à verser 100 euros chacun pour frais de justice. Et là, je dirais deux poids, deux mesures, parce qu'en avril, à Paris, la cour d'appel a condamné Alstom, donc la General Electric, hein, maintenant, à 8000 euros de dommages et intérêts pour 50 ouvriers de l'usine de Saint-Ouen pour donc le fameux préjudice d'anxiété. Donc là, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Voilà, donc il ne faut pas tarder quand il faut se mettre en route, hein, pour réclamer des choses et revendiquer. Rennes, maintenant, avec une grève reconductible qui a démarré en avril, donc fin avril, les salariés de l'association pour l'action sociale et éducative, APAS, on appelle ça APAS en plus court, sont en colère. Ils sont 220 personnes qui dénoncent un projet de la direction qui s'attaquerait à la convention sociale. Alors si ça réussit, c'est une perte de salaire et des congés. Pour la direction, c'est un sauvetage de l'association. Alors, selon les salariés titulaires, ben, ça serait, il y a quand même 190 personnes, ben, c'est la baisse de salaire qui sera de l'ordre de 400 euros pour les embauchés récents. Les congés, ben, c'est 9 semaines aujourd'hui, et ben, ça sera 7 semaines et demie demain pour les moins de 15 ans d'ancienneté. Et pour les titulaires, ben, ce sont les salaires gelés. La lutte est bien en place en ce début de mai. Grève il y a eu grève, et rassemblement place de la mairie et à la direction de la cohésion sociale avec leur intersyndicale CGT Sud et CFDT. L'association, selon la direction, accuse un déficit de 100 000 euros pour l'année 2016 et pour l'année 2017, il serait de 300 000 euros selon leur dire. Alors c'est l'État qui finance cette structure, donc la mission d'accompagnement des adultes protégés, et qui se retrouve donc déficitaire. Le 31 mai sera la date fatidique. Alors, pour une nouvelle convention collective et une baisse drastique de la masse salariale, selon la direction, cette convention collective régit 99% des associations du secteur. Et selon l'intersyndicale, il existe des inégalités de traitement entre les salariés d'une même association. Et pour terminer cette deuxième page, je filerai avec vous à Fézin, chez Total. Total, qui est ce transformateur de mazout, là. Hein. Donc, il y a une grève qui a démarré le jeudi 4 mai avec ce mouvement initié par le syndicat majoritaire qui est EFO, ici. Il a été quand même bien suivi, selon EFO, par 95% des 300 salariés du site de production, donc raffinage notamment. Alors, les chiffres sont un peu disparates selon les sources, évidemment. Alors, d'un côté, c'est 60%, enfin 95%, 60%, 40%, deux tiers des employés, enfin bon, bref, on s'arrange avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui blesse ici ? Ben, sont encore une fois les conditions de travail. Un effectif qui est en baisse, donc une surcharge de travail pour ceux qui restent et un épuisement. Des congés également qui sont refusés. Alors, le dialogue social également est dégradé. Alors, le 8 mai, donc, c'était lundi, une rencontre avec la direction et syndicats. Et qui finalement n'a abouti à rien du tout, donc continuité du mouvement. Une prime de 1000 euros également est exigée pour les bons résultats. Une assemblée générale des salariés aussi pour jeudi, donc demain. La production est arrêtée depuis le 8 mai. Alors les bons résultats en question sont pas les résultats chiffrés de Total, on les connaît, c'est énorme quoi. Mais les bons résultats notés sont en termes de sécurité plutôt. Alors, mais la direction dit que la distribution a déjà été faite, je veux dire la distribution de primes aux ouvriers à cause de ce résultat historique de sécurité. Et il précise même qu'il y a eu une infirmière qui a été engagée en CDI. Donc on peut dire que c'est royal, quoi. Hein. De quoi ils se plaignent ? De quoi ils se plaignent ? Voilà, donc grève chez Total.
Ça va devenir la blague, ça, bientôt, quand on va avoir un CDI. On va dire, oh, tiens, on a de la chance, on a un CDI.
Oui, en quelque sorte. Voilà pour cette deuxième page, les amis.
Merci.
Micro ouvert, open.
Micro ouvert, open mic, c'est parti. Qui c'est qui slame ? Personne. Bon, bah, si personne, du coup, on va peut-être enchaîner sur autre chose. Alors, on a le choix où on fait une pause musicale courte maintenant, ou si vous voulez pas, vous vous débrouillez. Voilà, pour être poli.
Ok, donc ça veut dire que tu veux ta pause musicale, c'est ça ?
Non, après, comme c'est déjà moins quart, peut-être enchaîner un petit peu ?
Allez, vas-y. Bien sûr, mais on peut enchaîner.
Allez, je me permets d'enchaîner, du coup, deuxième fois aujourd'hui. Voilà, je vous emmenais en Hongrie et en Pologne. Alors tout d'abord en Pologne, et pourquoi en Pologne ? Parce que le 29 avril dernier, donc il n'y a pas si longtemps de ça, il y a une grosse semaine, il y a eu la première manifestation fasciste dans le centre de Varsovie depuis 1945. Cette manifestation, elle a eu lieu au niveau des pavés rouges qui représentent l'emplacement du mur du ghetto de Varsovie. Pour parler un peu de la situation en Pologne, puis après je ferai un petit point sur la Hongrie, parce que du coup il y a quand même des similitudes. Le PiS, donc qui est le parti d'extrême droite qui dirige le pays depuis 2015, Donc voilà, il entretient et renforce ses relations depuis avec les groupuscules d'extrême droite fascisants, et notamment par rapport à cette manifestation qui était organisée par le Camp National Radical, ONR, sous le prétexte de fêter l'anniversaire de sa création. Cette manifestation, bien évidemment, n'a pas été interdite par le gouvernement polonais. Elle s'est déroulée sous la protection de la police, qui a écarté, contrôlé et réprimé les contre-manifestants qui voulaient la bloquer en signe de protestation. Voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, on fait souvent le dire, les dangers de l'extrême droite, en fait, c'est du fantasme, tout va bien partout en Europe notamment. On va parler un petit peu maintenant de la Hongrie, parce que du coup, vous savez sûrement qui, le chef du gouvernement, il s'appelle Viktor Orban, donc c'est presque un dictateur, on peut le dire, pratiquement, et du coup, le parti polonais qui est au pouvoir, qui avait été créé par les frères Kaczynski, et qui bâtisse du coup, loi après loi, qui se dirige vers l'autoritarisme, avec contrôle de la justice, de la presse et de l'art par le gouvernement, attaque contre les ONG, racisme et xénophobie d'État, remise en cause des libertés et des droits fondamentaux. Donc ces deux gouvernements hongrois et polonais que nos chers députés FN au Parlement européen ne manquent jamais de défendre. Avec un exemple, c'était le mercredi 26 avril dernier où le Premier ministre hongrois, donc Viktor Orban, était invité au Parlement donc pour y défendre sa politique menée depuis 7 ans. Au cœur du débat notamment, mais après c'est qu'un épiphénomène pratiquement par rapport à tout ce qui se passe en Hongrie, c'était l'une de ses dernières mesures, j'en avais parlé il y a un petit mois je crois, c'est la loi sur les universités. Et donc cette loi avait été faite uniquement pour viser une université, c'est l'université américaine de Budapest, qui a été fondée du coup par l'américain George Soros. Voilà, l'établissement accueille donc plusieurs milliers d'étudiants, notamment venus de Hongrie, mais du monde entier. Et avec la nouvelle loi qui a été sortie, donc l'université devra fermer. Du coup, et on vous demande du coup qui a bien pu applaudir les propos d'Orban le 26 avril au Parlement européen. Les rangs de l'extrême droite, du groupe Europe des Nations, et ça a été les seuls. Et parmi ces députés donc issus de l'extrême droite qui siègent à Strasbourg, il y avait 20 élus du Front National, dont Marine Le Pen, Florian Philippot, le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat et ou encore Louis Alliot.
Et puis, juste peut-être un petit truc, souvent carré, et les mouvements conspirationnistes disent souvent que les anarchistes sont payés pour manifester et pour casser des vitres par Soros pour déstabiliser le pays de l'extérieur. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est pas un hasard non plus s'ils visent cette université, parce que c'est un peu la pointe de l'iceberg de toute leur vision conspirationniste et antisémite du monde.
Une partie qui monte malgré le silence des médias.
Et du coup, voilà. Et pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en Hongrie depuis 7 ans, il y a des mesures qui peuvent rappeler certaines choses qu'on peut voir, notamment peut-être en Turquie en ce moment. Quand ils sont arrivés au pouvoir, Viktor Orban et son parti, le Fidesz, en 2010, en gagnant quand même une majorité, des deux tiers au Parlement hongrois, dès l'année suivante, le gouvernement a lancé des réformes qui ont affaibli la Cour constitutionnelle, qui est donc quand même le contre-pouvoir chargé de contrôler la conformité des lois. Et voilà, une réforme à laquelle donc Marine Le Pen avait donc apporté son soutien. La même année, une loi a envoyé à la retraite anticipée 10% des juges du pays, en l'occurrence les plus expérimentés, pour faire un peu de mal là-dessus aussi. En parallèle de ça, le gouvernement hongrois a légiféré aussi pour mettre au pas les médias et placer des proches du pouvoir à leur tête, notamment en octobre 2016 avec un journal critique à l'égard du gouvernement. Alors je ne pourrais pas vous faire le nom parce que du coup c'est imprononçable pour moi, désolé. Et donc a ainsi brutalement suspendu sa apparition. Tous ces journalistes ont été licenciés. Et cette fermeture donc est advenue quelques jours avant la vente de l'organe de presse à un entrepreneur proche du gouvernement. Il y avait une autre loi aussi dont j'avais parlé il y a trois semaines, c'était une loi taillée pour tuer les ONG, qui obligeait en fait à afficher le nom des donateurs, notamment des donateurs étrangers, tout le financement, pour les faire crever petit à petit. Parce qu'en Hongrie, les organisations qui reçoivent des financements extérieurs, y compris en provenance de l'Union européenne, devront inscrire donc sur leurs travaux la mention organisation civique financée par l'étranger. C'est assez formidable. En parlant un petit peu aussi des migrantes et des migrants, faut savoir qu'en Hongrie, c'est quand même une des politiques les plus dures d'Europe, parce que les organisations donc qui tentent d'aider les migrants sont parmi les premières visées aussi. Parce que le pays place systématiquement tous les migrantes et migrants en détention, y compris les demandeurs d'asile. Et face à la vague de réfugiés de 2015, vous vous en souvenez souvent, la Hongrie d'Orban avait réagi par l'installation d'une clôture à ses frontières et par une violente répression. Il y avait des images assez terribles qui avaient tourné.
Il y avait eu l'autorisation pour les militaires hongrois d'ouvrir le feu sur toute personne essayant de passer illégalement la frontière.
Exactement, Puis en plus de la fameuse rhétorique raciste qu'il cultive depuis des années, prenant notamment l'idée d'une supposée homogénéité ethnique hongroise, le Premier ministre a légiféré pour criminaliser les réfugiés. Maintenant, aujourd'hui, là, en Hongrie, le simple passage de la frontière par des demandeurs d'asile est devenu un crime passible de 3 ans de prison. 3 ans de prison. Il y avait du coup fin novembre un ressortissant syrien qui avait été condamné à 10 ans de prison pour des présumés actes de terrorisme, entre guillemets. Hein. En fait, il avait forcé une clôture avec un groupe de migrants un an plus tôt à la frontière serbo-hongroise. Donc voilà, par rapport aussi au libéralisme économique et à l'autoritarisme politique, eh ben Orban s'accompagne, Orban accompagne cette politique de généreuses baisses d'impôts pour les entreprises. Fin 2016, le gouvernement hongrois a décidé d'abaisser l'imposition sur les sociétés de 19 à 9%, ce qui en fait le plus bas d'Europe. Donc voilà, et pour revenir un petit peu en Pologne, parce que bon, ces pays quand même sont un petit peu liés par rapport au chemin qu'ils prennent depuis un moment, bah c'est pareil, hein, c'était main basse sur les médias, attaque contre les droits des femmes et la justice, droits des femmes on s'en souvenait, hein, c'était par rapport à l'avortement, et la mobilisation européenne et internationale qui avait suivi. En Pologne aussi, dans le domaine de la culture, et ben c'est pareil, hein, on écarte les directeurs des institutions culturelles, des théâtres, des centres culturels polonais à l'étranger pour y placer des proches et promouvoir une vision nationaliste et conservatrice de l'art. Donc voilà, c'était encore une fois le modèle hongrois qui était suivi, parce qu'à peine arrivé au pouvoir, Orban, lui, s'était empressé de placer deux figures de l'extrême droite néo-fasciste et antisémite à la tête du nouveau théâtre de Budapest. Donc voilà, pour ce petit tour.
Moi, est-ce que c'est pas le Jobbik? Est-ce que c'est pas justement je crois que c'est en Autriche, je crois, si je me trompe pas.
Possible.
Mais en tout cas, c'est pas, je sais plus si c'est en Autriche ou en Hongrie où les identitaires ont essayé de s'exporter à l'étranger. Alors ils avaient essayé au Québec, ça n'avait pas marché. Ils avaient essayé dans d'autres endroits. Mais l'endroit auquel ça a bien marché, je crois que c'est l'Autriche. Ou l'Hongrie.
En règle générale, dans l'Europe de l'Est, les identitaires sont pas si mal que ça, parce que le bloc identitaire, qui est la fraction du coup européenne de génération identitaire, fonctionne pas si mal.
Voilà.
Malheureusement.
Mais en tout cas, ils ont fait. Enfin, je crois que si c'est l'Autriche, ils font des cartons pleins là-bas. Je crois qu'ils font. Enfin. Ils seraient presque en capacité d'avoir un mouvement à 20% de l'électorat, en tout cas là-bas. Et voilà, donc c'est aussi, si je peux un peu continuer sur nos amis des bêtes, il y avait Bissuel aussi qui allait faire un petit tour au Québec pour aller voir les fascistes.
Tu nous rappeler rapidement qui c'est quand même pour...
Alors Stéphane Bissuel, c'est le chef lyonnais du GUD et puis porte-parole, je crois, du mouvement.
Voilà.
Donc pour résumer très vite, il est allé au Québec. Donc au Québec, il commence à avoir des mouvements fascistes assumés. Donc c'est le mouvement Atlante Québec qui est une tentative au départ de fonder les identitaires, et puis après ils se sont dit finalement non, on va faire un truc proche du GUD, et en fait bah là il allait faire sa petite conférence là-bas pour renforcer ses alliés, et un peu après, je sais pas si c'est bientôt là, mais il va aller rencontrer le bataillon Azov avec les fascistes ukrainiens, voilà. Donc on a entendu pas mal parler lors du conflit
ukrainien, je pense que...
Oui voilà, ça a le mérite d'être clair.
Tu voulais enchaîner sur quelque chose du coup là? Il nous reste encore quelques minutes.
Moi je peux lire un petit article qui nous vient de Tétu sur la situation en Tchétchénie, du coup, pour rester un peu dans l'est de l'Europe. La situation sur la persécution des homosexuels en Tchétchénie. Alors, arrestation, torture, parricide, la communauté internationale a les yeux rivés sur la Tchétchénie depuis un mois. Mais que sait-on vraiment de cette petite république du Caucase qui vit sous le giron du Kremlin? Ce n'est pas une surprise. Cette formule utilisée par la première fois par Aude Merlin, chercheuse spécialiste du Caucase du Nord interviewée par Le Monde, n'a cessé d'être réemployée. Toutes les organisations de défense des droits contactées par Tétu pour commenter la situation tchétchène ont ainsi décrypté l'escalade de violence anti-gay dont la communauté internationale s'émeut depuis un mois. On n'a pas créé des camps en Tchétchénie pour y exécuter les homosexuels, souligne une source désirant rester anonyme pour garantir la sécurité de son organisation et qui trouve problématique l'appellation de camp de concentration empruntée par certains médias pour qualifier la situation. Car ça fait longtemps que tout ce qui dépasse en Tchétchénie est soumis à la répression. Les toxicomanes aussi sont par exemple visés par ces arrestations. Svoboda, qui a publié un certain témoignage de rescapés, précisait à ce propos qu'en Tchétchénie, les narcomanes ne sont pas forcément les consommateurs de drogues dures, qu'il est très difficile de se procurer sur le territoire, mais des consommateurs de lyric, une préparation médicamenteuse qui provoque des effets similaires. Comme tous les comportements minoritaires ou dissidents, ils sont sujets à la répression. La République tchétchène de Ramzan Kadyrov vit comme sous George Orwell, analysait le journal en début avril. George Orwell, du coup, c'est un auteur qui a écrit entre autres 1984,
voilà, avec
un roman d'anticipation. En constatant que les pouvoirs avaient supprimé toutes les vidéos d'un journaliste illégalement détenu pour son homosexualité présumée ou réelle, comme s'il n'avait jamais existé. On est face à un régime autoritaire très dur et très répressif qui pratique la terreur dans l'impunité totale, réenchérissait Aude Merlin au micro de France 24. Et Moscou le sait, Moscou a créé ce régime. Le sombre héritage des guerres contre la Russie. En 2 décennies, la Tchétchénie a connu 2 guerres meurtrières contre la Russie, décryptées par les chercheuses Anne Le Héroux et Amandine Regamet. Le premier conflit armé débute en 1994 par l'intervention de troupes russes en Tchétchénie pour mater l'opposition indépendantiste qui refuse d'intégrer la Fédération de Russie. La violence des frappes russes, qui se poursuit jusqu'en 1996, pousse certains commentateurs et commentatrices à parler d'un génocide. 3 ans après les traités de paix, une nouvelle guerre éclate, mais Moscou qualifie le conflit d'opération antiterroriste, alimentant la confusion entre combattants, territoristes et civils. Je vais avancer un tout petit peu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En plus des violences russes, la plupart des violations des droits humains sont le fait de milices tchétchènes pro-russes. Ramzan Kadyrov, fils du mufti Akhmad Kadyrov, qui fut placé à la tête de la Tchétchénie par Vladimir Poutine, dirige ainsi plusieurs milliers d'hommes lorsqu'il a nommé Premier ministre par la Russie en février 2006. L'année suivante, il est propulsé président de la Tchétchénie par le Kremlin. Cette tchétchénisation du conflit voulue par le président Poutine assoit le pouvoir tchétchène fort et allié. Au même moment, les assassinats d'opposants politiques se multiplient, journalistes, avocats, militants et militantes, etc. L'ordre règne à Krosny, mais ce sont des Tchétchènes qui détiennent désormais le bâton, avec les mêmes méthodes, le rapt, la torture et l'assassinat, résumé alors Arte dans un reportage consacré à la capitale sortie de la guerre en 2009. La touche nationale, ajoutée par Kadyrov, c'est l'ordre moral de l'islam qui oblige par exemple désormais toutes les femmes à se voiler, ou dernièrement à défiler massivement contre Charlie Hebdo. En échange de son allégeance à Moscou, Ramzan Kadyrov bénéficie du silence du Kremlin pour ses exécutions, analyse encore Aude Merlin. Selon cette dernière, la législation russe, hostile à l'homosexualité combinée à la situation du Caucase, muselle complètement l'homosexualité dans la petite république. On n'a plus beaucoup de temps, alors je ne sais pas si je continue ou si on se dit qu'on fera un point la semaine prochaine.
Bah, je ne sais pas, parce que du coup, il y avait
la situation.
Il y a encore, enfin du coup, je pense qu'on va faire un gros point parce que il y a de nouveau là, il y avait une dépêche que j'avais trouvée aussi sur note avec un adolescent du coup, Gad, 17 ans, qui avait été jeté du 9e étage par son oncle pour laver l'honneur de la famille. C'est aussi une conséquence du coup, voilà, de toutes ces paroles et toute cette politique, notamment menée par Vladimir Poutine et par son bras droit en Tchétchénie. Voilà, parce que maintenant du coup, voilà, il y avait forcément du coup tous ces témoignages de rescapés, voilà, qui rapportent des arrestations de masse et des détentions extrêmes dans les prisons.
Ouais,
du coup,
ouais,
sévices, meurtres et meurtres.
Trois témoignages aussi voilà. De gens qui ont fini en fait par parler ou par donner des informations en disant que les geôliers finissaient par obtenir ce qu'ils voulaient, car nous ne sommes pas des héros pour supporter ces douleurs et ces humiliations. Parce que c'est peut-être pas des camps de concentration, mais ce qui se passe en tout cas à l'intérieur de ces camps où on parque les gens, ça a l'air d'être vraiment atroce.
Ouais. En tout cas, oui. Et puis, on voit encore une fois que loin de ce qu'on dit, que l'homophobie, c'est juste des mots, c'est aussi des actes.
C'est surtout des actes.
Et ça mène à ça.
Et je voulais juste finir par ça, parce que du coup, il y a le rapport annuel de SOS Homophobie qui est sorti. Et du coup, voilà, après 2 années consécutives de baisse, les LGBT-phobies progressent à nouveau en 2016 avec une augmentation de 19,5% des témoignages reçus par cette association-là.
En France, hein, c'est pas.
Ouais, c'est en France, ouais, mais c'est pour dire voilà, qu'il n'y a pas qu'à l'étranger, du coup, hein, et notamment en France. Les personnes trans sont parmi les premières victimes de cette hausse, plus 76% de témoignages. La haine envers les personnes lesbiennes et gays, bi et trans persiste, s'amplifie et s'ancre toujours aussi profondément dans la société. Voilà, donc il y a tout un rapport, vous pouvez le trouver sur le net. Il fait 170 pages, notamment qui fait le lien forcément encore avec les Roland Manif pour tous et notamment Sens Commun, voilà, proche de François Fillon, qui a multiplié les attaques et qui du coup se concrétise derrière par des actes.
Et puis voilà. toute l'action, que ce soit, on va dire, entre guillemets, de groupuscules ou même du Front National ou même de, on va dire, de tout le camp social réactionnaire, ben c'est plus que des paroles, c'est aussi des actes.
Donc voilà. Donc on va juste vous rappeler là pour finir la permanence de samedi après-midi comme d'habitude de 15h à 19h. La projection mercredi prochain, donc mercredi 17 mai, la projection de Major.
Voilà, et avant, donc la permanence qui sera, on va dire, entre guillemets thématique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un choix de brochure. Et aussi, ça permettra aux personnes qui ne peuvent pas aller à la projection de pouvoir discuter un peu des enjeux qu'il y a derrière la lutte contre l'homophobie et de la transphobie, y compris en tant qu'anarchiste. Et en quoi ça a du sens.
Donc voilà, donc cette permanence de 16h à 19h, la projection vers 20h. Voilà, on vous invite nombreuses et nombreux à venir à la Plume Noire pour cette projection, qui est un peu une exclusivité du coup.
Oui, c'est ça.
Voilà, on a réussi à avoir un bon contact.
On vous invite à aller voir qui est Major Gracie si vous avez le temps.
Voilà.
On rappelle la date.
C'est mercredi prochain, donc mercredi 17 mai.
Mercredi 17 mai. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver les infos sur.
On sera là pour vous accueillir à partir de 17h à la Plume Noire, au 8 rue Diderot.
Voilà, voilà.
Oh, ça marche. Bah, du coup, on va lancer le générique.
Ouais,
il y aura quand même la radio.
Bon, bah, on laisse la place à la lumière.
Oui, il y aura quand même la radio.
On vous dit bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés.
Salut.
Salut.
Ciao.
À la semaine prochaine.